nous va dans cette première partie, cause un petit peu sur la thématique elle-même. Nous l'a parlé tout à l'heure là, du travail d'Alexandrine Dijoux. Et je trouve donc Alexandrine Dijoux pour nous parler d'une littérature orale à travers les textes, contes et légendes dans l'identité culturelle réunionnaise.
Alors pareil, elle a dit que nous sommes un coup créole, un coup français, donc toute ma présentation est en français. Et moi, plus besoin de présenter à moi, elle a présenté déjà Alexandrine Dijoux. Donc, comme le temps l'est compté, il commence direct. Hein. Donc, organisée par le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de La Réunion, la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement est une opportunité de mise en évidence de l'importance de la diversité réunionnaise. Une diversité synonyme de richesse culturelle et identitaire qui contribue au dialogue et à la compréhension mutuelle et pouvant être perçue comme un vecteur d'inclusion, de changement, de constructif et de développement durable d'un point de vue social, environnemental et économique. Des réflexions ont ainsi été menées concernant les connaissances pratiques locales que l'on peut également appeler des marqueurs culturels et identitaires réunionnais. Il concerne la cuisine, donc, comme on a parlé tout à l'heure, la langue, la musique, ainsi que les plantes médicinales et croyances qui s'y rattachent. Pour cette troisième édition consécutive, ce 1er juin 2024, le CCE retient la thématique liée à la littérature, notamment orale, à travers les contes et légendes de La Réunion, et intitule donc cette journée, alors là, mi cause créole, mais migué pas trop dire, hein, « Kermazinaz nous ancêtres, histoire La Réunion » ou « L'imaginaire des aïeux, contes et légendes de La Réunion ». Mes objectifs ici sont de rappeler le contexte de création des formes de pratique de la littérature partagée et les différentes influences culturelles qui l'ont façonnée, les différents aspects et les différentes conduites liées à la pratique de cette oralité et de poser les concepts de littérature. Mon intervention s'intitule donc « Des pratiques littéraires partagées à La Réunion, histoire, légende et contes entre différences et communs ». Bon, ça que l'a vu à moi l'année dernière, écoute à moi l'année dernière, moi elle est désolée, mais ça répète un petit peu ce que moi l'a dit, puisque ma spécialité, c'est le métissage réunionnais. Donc, désolée, déjà en plus, mais alors, ça répète tout ce que Sully, où il a fait la conférence tout seul. Donc là, mais ça a répété, donc à un moment, on va finir par rentrer, hein, parce que tout le monde a répété un petit peu les mêmes affaires. Et donc, dans un premier temps, rappelons le contexte de migration, immigration et de créolisation, métissage. Retenons donc les notions de population d'origine, population origine et population racine, de différence et de commun, de multi-inter- et transculturalité et de multi-inter- et transidentité. En effet, l'île de La Réunion... À l'île de La Réunion, c'est dès la fin du XVIIe siècle, dans des situations passées variées, libres ou contraintes et violentes, d'esclavage ou d'engagisme, et avec des statuts différenciés de colons, de domestiques, esclaves ou engagés, que débarquent diverses populations génétiquement et culturellement d'origine géographique diverse. Des populations extérieures à l'île, que l'on appellera ici « population origine ». Elles sont issues de trois continents européens, africains et asiatiques et se présentent avec plus de 7 origines culturelles et identitaires différentes. L'approche identitaire d'une réunion multiculturelle et identitaire nous permet de découvrir que les populations origines concernent ainsi les populations européennes, comprenant donc des origines françaises, portugaises, italiennes, suisses, espagnoles, allemandes, écossaises, irlandaises, hollandaises, et des populations africaines, comprenant des origines malgaches et comoriennes, des populations indo-pakistanaises, comprenant des origines tamoules et musulmanes, et les populations asiatiques, comprenant notamment les origines chinoises. Par ailleurs, dans ce contexte d'immigration et donc de déracinement, c'est un long processus d'échange, d'emprunt, de négociation, de compromis, d'adaptation entre désapprentissage et apprentissage, nouveau, de transformation, voire de transmutation, de recréation, de reconstruction dynamique et locale, que se constitue ce que l'on appelle la créolisation. On en parle encore. Une créolisation qui, par extension, sera entendue comme un mélange, un brassage, un métissage biologique, que certains nommeront également melting pot ou encore bâtarcité. mélange, brassage, métissage qui est également culturel. La créolisation biologique et culturelle s'est ainsi généralisée dans toutes les communautés de la société. Dans une certaine urgence sociale, l'île de la Réunion a signifié véritablement la réunion de différentes populations humaines. Génétiquement et culturellement issues de diverses origines extérieures, mais nées et enracinées biologiquement et culturellement à l'intérieur, il est aujourd'hui question de la naissance, de la création de la population intérieure à l'île, que l'on appellera population racine, composant une seule et même population typiquement réunionnaise. L'approche identitaire d'une réunion, cette fois-ci inter- et transculturelle, nous permet de découvrir les populations racines, comprenant notamment les créoles blancs, c'est-à-dire les gros blancs et les petits blancs, pour toutes les origines européennes, les CAF pour toutes les origines africaines, les malgaches pour les origines malgaches et les comores pour les origines comoriennes. Tout ça, c'est écrit en créole, hein, dommage, j'ai pas pu mettre à l'écran, mais c'est écrit en créole. Comprenant aussi donc les malbars, toutes les origines. Bon, donc les malbars comprennent toutes les origines indiennes, tamoules, ainsi que les arabes pour les origines musulmanes. Les chinois représentent quant à eux toutes les origines asiatiques. Et enfin, nous pouvons parler donc de ceux que l'on appelle les créoles. Alors vous comprenez bien qu'au départ, on a parlé des populations origines avec les populations européennes. Et là, on a des mots typiquement créoles pour désigner chacune des populations créoles réunionnaises. Alors les populations d'origine et leurs descendants ont ainsi été disséminées et éloignées, déracinées. Elles ne pouvaient reconstituer de lien avec leur lignage d'origine et ainsi dépossédées de leur socle commun de repères culturels, de composantes référentielles d'origine. Elles transportaient cependant avec elles certaines de ces connaissances et pratiques propres concernant de très larges aspects de la vie en société et que l'on appelle aussi des marqueurs culturels et identitaires. Ce qui a fait par conséquent de la différence linguistique, culinaire, musicale, religieuse et culturelle, artistique, architecturale et littéraire. Mais ces marqueurs, qui n'ont pu trouver tout à fait les possibilités traditionnelles, ont dû s'adapter aux réalités de l'île. Et s'adapter aux réalités de l'île a surtout créé du commun. En effet, dans le contexte d'urgence sociale et de longs processus d'échange évoqués précédemment, se construit un nouveau socle commun de marqueurs culturels et identitaires mélangés, brassés, métissés, créolisés et constitutifs d'une seule et même communauté réunionnaise, soudée, consolidée. Un nouveau socle commun qui marque une certaine forme de vivre ensemble, de créolité ou de réunionnité, au travers desquels les Réunionnais se reconnaissent aujourd'hui encore. Les approches culturelles et identitaires du socle commun nous permettent donc de déterminer ces marqueurs culturels et identitaires. Ainsi, selon les représentations, parce que je rappelle pour ceux qui ne me connaissaient pas auparavant, j'ai fait une thèse sur les pratiques identitaires à La Réunion et la transmission au sein des familles. Et donc, j'ai posé des questions à la population. Donc, avec leur représentation, on parle bien de représentation, puisqu'il n'y a pas de fait. Quand on parle de culture, c'est de représentation, des ressentis, un comportement. Donc, selon les représentations, de son aspect traditionnel à son aspect évolutif, dans cette société en évolution, en passant par son aspect ethnique et par ordre de priorité, en première position, les Réunionnais ont en commun leur langue, donc le créole. Ensuite, la cuisine, leur musique et les danses, puis leurs us et coutumes. C'est trop vaste à expliquer, les us et coutumes, mais bon, on s'entend bien. Leurs fêtes rituelles, religieuses et culturelles, leur composition de jardins et leurs tisanes, que l'on a vu dans la conférence l'année dernière, en 2023, leur artisanat, leur littérature et enfin leur architecture. Donc dans l'ordre de priorité, les Réunionnais ont eu ça comme représentation, donc c'est la langue en priorité dans leur marqueur culturel. Parmi ces connaissances et pratiques locales, donc, des interrogations se portent sur la littérature. Mais qu'est-ce que la littérature ? Le terme de littérature est un terme issu du latin litteratura, dérivé de littera, qui signifie la lettre, au sens de signe graphique servant à transcrire une langue. Ainsi, la littérature, dans l'évolution du sens du mot, désigne d'abord un ensemble de lettres constituant le fait d'écrire et un ensemble de lettres constituées en alphabet. La littérature voit ensuite son sens s'élargir à celui de grammaire, de philologie, c'est-à-dire à l'étude technique et érudite des textes écrits. Un sens qui, au début du IIIe siècle, aboutit au sens de savoir, d'érudition dans le domaine des textes écrits. La littérature s'applique cependant de plus en plus à une catégorie de savoir spécifique, celle des belles lettres. La littérature, à partir de 1750, évolue encore lentement vers le sens plus large de création langagière, laissant une place grandissante au jugement subjectif et libéré des critères esthétiques contraignants. Au XVIIe et XVIIIe siècle, la littérature prend son sens principal actuel, à savoir l'ensemble des œuvres écrites et orales. La littérature se définit donc ainsi comme un aspect particulier de la communication verbale ou écrite qui met en jeu une exploitation des ressources de la langue. On l'a bien vu, Sully Andoche exploite très bien les ressources de la langue créole pour nous mettre en bouche tout le sujet de ce colloque. Donc ça permet de multiplier les effets sur les destinataires. La littérature vise ainsi à manifester les émotions et également à éduquer, à communiquer des pensées et influencer dans une communication utilitaire. Et même à séduire, elle permet de révéler au lecteur ou auditeur ce qu'une personne a dans le cœur. J'ai pas beaucoup de temps, mais ne vous inquiétez pas, je termine avant
même,
que j'entende.
Il est même déjà dépassé.
D'accord. Je termine. Alors, les premiers arrivants racontaient déjà des histoires dès l'apparition des enfants dans les familles. Il était vital de transmettre les contes et légendes de leur pays à leurs descendants. Mais majoritairement, les contes et légendes de leur pays, mais majoritairement, les contes proviennent de France métropolitaine, d'Afrique et de Madagascar, que certains récits hindouistes. Bien que certains récits hindouistes soient transmis et popularisés par des balles tamoules, peu de récits proviennent des cultures chinoises, musulmanes et hindouistes, soit parce qu'ils ne sont pas transmis, soit parce qu'ils le sont uniquement au sein des familles. Et finalement, nous disait Sully Andoche quand je l'ai interviewé pour ma thèse, les histoires qui nous sont restées, les histoires créoles d'ici, il n'y en a pas beaucoup. Mais puisqu'il n'y a rien de mieux que des spécialistes pour parler de leur spécialité, alors laissons la place pour mieux répondre aux questionnements sur les laissons-leur la place pour mieux répondre aux questionnements sur les contes et légendes de la Réunion. Merci pour votre attention. Criquet.
Merci Alexandrine Dijoux. Bon, vous avez échappé au caillan, mais je ne sais pas si les autres y échapperont. Après, on a deux solutions, hein. Là, pour l'instant, sur mes calculs, on déjeune à 14 heures. Donc, à mon avis, c'est vous qui allez faire le caillam à un moment. J'aurais même plus besoin d'intervenir. On accueille maintenant Christiane Raffidinarive. Et je me suis demandé, parce que je travaille un petit peu, quand même, mine de rien, lorsqu'on prépare ce type d'événement. Et donc, j'ai cherché qui était Christiane. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'une politologue peut bien venir faire dans cette histoire ? Oui. Qu'est-ce qu'elle peut bien venir faire dans cette histoire ? Et puis un jour, bonjour, en cherchant, je suis tombé sur une publication qui s'appelle Rouge, et quand quelqu'un est capable d'expliquer une élection au travers d'un poème, elle a tout à fait sa place ici.
C'est moi. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Je suis ravie d'être là et je dis en premier mon plaisir, l'assemblée du premier mot, j'ai bien lu, le plaisir d'être là sur ce thème aujourd'hui et pour pouvoir partager avec vous tout ce qui concerne des choses que j'aime beaucoup depuis toujours, et ça fait longtemps que je suis sur Terre, les mythes, les contes et les légendes. Donc la première chose que je souhaitais partager avec vous, c'est... voilà, celui-là. Ce sont mes résultats de recherche. Il y a eu un grand colloque à l'Université de La Réunion à la fin de l'année dernière et nous allons publier un livre sur les résultats de ce colloque donc de recherche hein, avec les collègues chercheurs qui concerne donc, ça s'intitule « Les pensées du grand océan » et qui donc travaillait sur le thème des mythes liés à l'océan et donc toutes les questions que se posent évidemment tous les chercheurs là-dessus. Moi, en tant que politiste, en tant que politologue, ce qui m'intéresse évidemment, c'est la politique. Et je me suis donc posé la question de à quoi ça sert un mythe, à quoi ça sert des contes, des légendes, parce que quand j'ai fait toutes mes enquêtes, eh bien, tout le monde me parle de l'océan en termes de mythes, de contes et légendes, et moi j'étais un peu fatiguée dans mon domaine de n'entendre parler que de frontières dès qu'on parle de l'océan. Donc je me suis beaucoup intéressée en tant que chercheur à la question, et donc la première partie de ce que je souhaite partager avec vous, de ces résultats de recherche, je l'ai affichée là pour, on a très peu de temps, pour vous le dire en quelques mots. Donc, mes premiers résultats de recherche, eh bien, tout le monde le sait, mais ça ne fait rien, on peut le redire. Les mythes, nous pouvons distinguer les mythes des contes et légendes. Alors, il y a beaucoup de choses qui les distinguent, il y a beaucoup de choses qui les rassemblent, mais ce qui est sûr, c'est que les mythes nous apprennent toujours qui nous sommes. Dans le monde entier, c'est universel. Dans toutes les sociétés, les mythes nous apportent toujours des réponses, je dis bien parce que ce sont des réponses et pas une seule réponse, donc, sur cette vaste question, cette profonde question, merci beaucoup, cette vaste question, cette profonde question qui nous travaille tous en tant qu'individus et en tant que société. Et les mythes nous disent, ah, voilà une réponse, voilà deux réponses, voilà multiples réponses sur qui nous sommes. D'autant plus que les mythes, il y a un socle commun ou deux, trois socles communs et on retrouve des tas de variantes dans le monde entier du même mythe ou de la plupart des mythes. Donc c'est très intéressant. Je vous donne tout de suite l'exemple réunionnais. J'ai eu le temps d'interroger donc, les réunionnais, ceux qui habitent ici ou ceux qui sont partis ailleurs sur les mythes. Et voilà juste un exemple raconté pour résumer les résultats. Prenons grand-mère Cal, tout le monde connaît. Grand-mère, c'est une femme. Cal, on ne sait pas trop bien si ça vient de Cal, qui veut dire femme en malgache, ou ça veut dire autre chose. En malgache, Cal, ça donne aussi Kalalao, ça veut dire cafard. Donc, voyons quelle est la question de l'animalité ou la question de l'ancestralité dans cette histoire. Mais moi, j'aime bien la réponse que m'a donnée un scientifique, un collègue qui m'a dit, tu sais quoi, les scorpions, comme les cafards, même s'il y a une déflagration nucléaire, ça survit, scientifiquement parlant. Et donc, les ancêtres savaient peut-être ça, et que peut-être pour ça, c'est intéressant quand un malgache dit calabé, ça ne veut pas dire grande femme ou grosse femme, ça veut dire très, très, très puissant. Donc, quand on dit la grand-mère Cal, là, c'est une puissance dont on parle. Et comme c'est une femme ici à La Réunion, quand on raconte le même mythe, mais ici, Cal, c'est une femme. Ailleurs, ce n'est pas forcément une femme. Ici, c'est une femme et c'est une femme vieille. Donc, c'est une grand-mère. Ça veut dire qu'elle a pu avoir des enfants. Elle a pu avoir une filiation. Ce n'était pas gagné d'avance dans la société réunionnaise. Hein. Pourquoi ? Parce que c'était traversée de la mer, hein, tout le monde vous a jeté dehors de là où vous venez. Bon, je connais Madagascar, donc je vous dis bien, à l'époque, c'était jeté dehors, oublié, vous n'existez plus socialement ni rien. Vous avez été vendu, vous arrivez ici. De toute façon, vous n'êtes plus un être humain au sens social du terme et vous n'êtes plus dans l'histoire malgache. Donc, vous arrivez ici, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les personnes qui arrivent là, eh bien, ils arrivent dans une société coloniale. Eh bien, ils ne sont plus non plus des personnes et on s'attache à les déculturer. Ils deviennent des meubles. La chaise où je suis assise, par exemple. Donc, là, encore une fois, deuxième anéantissement. Donc, quand on parle de tous ces siècles-là et qu'aujourd'hui subsiste encore ce personnage issu de cette société-là, raconté par cette société-là, qui parle de puissance, eh bien, c'est vraiment une performance sociale remarquable que l'on parle encore d'une femme qui soit puissante après tant d'anéantissement. Donc, il est donc extrêmement important pour nous de transmettre, et chacun, tous ceux qui racontent l'histoire de grand-mère Cal le savent consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour ça que moi-même, qui ne connaissais pas du tout à la Réunion quand je suis arrivée ici, je n'ose même pas dire combien de décennies maintenant, j'ai découvert la façon dont les Réunionnais racontent grand-mère Cal. Autre chose, hein, grand-mère Cal, elle a été capable d'avoir une postérité dont on se souvient. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque où l'histoire est campée, c'est pendant l'esclavage. Et cette femme, elle est donc dans ce monde-là. On ne sait pas avec qui elle a fait ses enfants, peut-être le maître, peut-être des compagnons d'esclavage, peut-être plusieurs de tout ça. Mais en tout cas, elle a eu une postérité. Et on parle précisément de sa fille, encore une fois une femme. Alors cette fille-là, eh bien, cette fille-là, c'est, bon, on dirait aujourd'hui la dépression, hein.
on va dire. Donc, dans toutes les histoires, toutes les variantes de l'histoire. Cette fille-là, elle ne parle pas beaucoup dans l'histoire, mais on dit qu'elle est très triste. Elle est enceinte et elle a un enfant. Et donc, elle se suicide dans une des variantes de l'histoire. Dans d'autres variantes, elle disparaît, on ne sait pas trop comment. Mais en tout cas, sa mort est quelque chose de très problématique. Cet enfant-là, en tant que fille, en tant que femme, en tant que mère, n'arrive pas à survivre. Donc, qu'est-ce que ça nous dit de l'histoire de la Réunion ? C'est peut-être pas une histoire datée. Si on sait que c'est l'esclavage, ça a été transmis. Donc, pendant cette période-là, il était très difficile de vivre en tant qu'être humain ayant une postérité. Chez les Malgaches, l'éternité, c'est d'abord parce qu'on a des enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants peuvent vous ancestraliser de votre vivant ou une fois que vous êtes mort. Donc, si vous n'êtes pas ancestral, c'est pas tout le monde qui devient ancêtre. Hein ? Chez les Malgaches, dans toutes les cultures malgaches, vous devenez ancêtre si quelqu'un fait de vous un ancêtre. Donc ça peut être votre descendance directe, comme ça peut être quelqu'un qui se souvient de vous et qui fait de vous un ancêtre. À La Réunion, j'ai interrogé beaucoup de monde qui sont dans les services cabarets, qui n'ont pas directement, ou en tout cas pas souvenir ni mémoire écrite d'ancêtres malgaches, mais qui se sont réappropriés des ancêtres malgaches et leur demandent plein de choses, dansent pour eux, chantent pour eux. C'est absolument impressionnant. Et donc là, ils pensent que ces personnages-là sont ancestralisés. La fille de Kala, elle est ancestralisée, entre guillemets. Je ne sais pas si quelqu'un prie la fille de Kala, mais en tout cas, dans l'histoire, dans les mythes, elle est ancestralisée dans le sens où elle a donné naissance à un enfant. Et celui-là, c'est un garçon. C'est un garçon. Et donc, cet enfant-là, quand la jeune femme disparaît, une variante de l'histoire dit qu'elle s'est jetée dans la mer. Donc la mer, c'est devenu un gouffre, parce que c'est la traversée qui a anéanti, qui a rendu servile. Et donc, la mer, c'est quelque chose à La Réunion. Beaucoup disent qu'on vit en tournant le dos à la mer, alors que nous sommes une île. Il se dit « nous », pas en malgache, hein, il se dit « nous » dans toute l'Asie Pacifique, là-bas en Polynésie, là-bas en Nouvelle-Calédonie, dans toute l'Indonésie, tout d'où viennent des Malgaches en fait, toute cette civilisation de la mousson, nous se dit, comme je le prononce nous, et ça donne le mot nous, et ça veut dire île. Et quand on dit cita nous à nous, ça veut dire là où il n'y a pas d'île, ça veut dire c'est la mer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vécu comme un espace, comme la grandeur de l'infini, etc. À La Réunion, la mer est devenue un gouffre qui vous a avalé en tant qu'être social, en tant qu'être humain, et là où on retourne pour mourir et disparaître. Mais peut-être que c'est une façon de raconter qu'elle a essayé de s'échapper comme beaucoup d'autres et qu'elle a refait la traversée pour aller ailleurs. Mais là, du coup, La Réunion, les Réunionnais de l'époque, tout en racontant l'histoire de génération en génération, veulent les oublier. Vous voulez partir de La Réunion, on ne s'occupe plus que de La Réunion. On ne veut pas savoir ce qui se passe ailleurs. Nous sommes entre nous, c'est la créolisation spécifique à La Réunion. Cette créolisation-là existe aussi, nous le savons tous, ce n'est pas que la créolisation ouverte. Donc cette jeune femme-là, elle est comme ça dans l'histoire, elle sort très vite de l'histoire, et il y a le jeune homme et la grand-mère qui sont face à face. Eh bien, le jeune homme et la grand-mère, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la grand-mère se prend d'une affection un peu disproportionnée, hein, parce que c'est le survivant, vous comprenez. Je ne sais pas trop comment le jeune homme, le petit garçon vit comme survivant, mais vous savez que c'est compliqué, ces choses-là. Hein. Mais bon, ils vivent ensemble, et voilà-t-il pas qu'à un moment donné, très tôt, le petit garçon, dans une variante, on dit qu'il tombe dans le ravin, il meurt. Une autre variante dit qu'il a été poussé dans le ravin, il meurt. Une autre variante dit qu'il jouait dans le village avec les enfants, les enfants étaient jaloux parce qu'il vivait bizarrement avec sa grand-mère tout seul là-bas, à côté du volcan, c'est-à-dire en dehors du cercle du village, et en plus à côté du feu, elle a des savoirs peut-être, c'est peut-être une sorcière, grand-mère Cal. Attention, la grand-mère Cal qui fait peur apparaît. Et donc, à ce moment-là, on a bien ce personnage du jeune homme qui lui aussi disparaît très vite de l'histoire. Il meurt. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça nous dit sur l'histoire ? Je dis histoire avec un grand H, hein. Sur l'histoire de La Réunion. On n'a pas de date, on sait juste que c'était pendant l'esclavage, et après, parce qu'il y a plusieurs générations. Ça dit la difficulté d'avoir une filiation à La Réunion. Ça dit la difficulté d'avoir eu des générations qui se succèdent et qui se reconnaissent comme enfants, parents, ascendants, descendants. La difficulté de vivre tous ces siècles-là comme ayant des ancêtres, et en étant des descendants d'ancêtres. Et nous y sommes arrivés, nous sommes là quand même. Et nous ne sommes pas complètement déconnectés de d'où nous venons. Et donc, vous avez, encore une fois, il y a une performance extraordinaire que l'on peut lire donc, à travers cette transmission du mythe tout au long des générations. On revient sur le personnage de grand-mère Cal. Elle a perdu sa fille, elle perd son petit-fils. Que devient-elle? Et alors là, l'histoire, eh ben, je vous raconte, j'étais comme ça sur ma terrasse. Je suis au deuxième étage et là, c'est tout de suite une aire de jeu, hein, dans mon immeuble. Et j'entendais, je travaillais et j'entendais sans les voir, les enfants jouer. Eh bien, les enfants, j'étais en train de préparer ça. Les enfants, eh bien, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils jouaient. En fait, c'était une sorte de jeu que nous connaissons très bien dans le monde entier, mais surtout dans le monde européen, on jouait aux mères. En fait. Donc, mais sauf qu'en jouant au maire, il chantait une petite comptine, tout le monde connaît ça peut-être. Grand-mère Cal, c'est l'heure qu'il est. Bon, on vient de ça. OK. Donc, je n'ai pas l'accent créole, je vous explique pourquoi je ne le prends pas. Donc, j'entends ça en créole. Donc, j'entends les enfants courir, s'échapper. Quand il est midi, si j'ai bien compris le jeu, quand il est midi, il faut tous s'échapper parce que c'est le. Minuit, pardon. Quand il est minuit, il faut tous s'échapper. Sauf que les enfants, c'était midi. Quand ils ont joué ce jour-là. Donc, du coup, c'est ce qui a fait que je me suis réveillée. J'écoutais, tiens, c'est bizarre. C'est la première fois que j'entends midi. Alors, et tous, ils le disaient, tous, ils étaient 5 ou 6, ils n'avaient pas plus de 6 ans. Hein. Et donc, ils ont donc inventé pour leur jeu. Et donc, à midi, tout le monde s'égaillait, donc le jeu continuait. Et à un moment donné, j'entends une voix qui sort du lot. C'est une voix qui dit... En français, avec l'accent français, pas créole, hein? Donc, petit enfant, apparemment une petite fille, qui dit exactement la même phrase dans le même jeu, sauf que moi, quand je l'entends, ça donnait, grand-mère Cal, elle sait quelle heure il est. Alors, ça m'a fait un grand choc quand j'ai entendu ça. J'ai dit, waouh, illumination, comme disent certains. Eh bien, en fait, j'ai compris ce que... je crois que c'est... notre président que je remercie particulièrement, c'est grâce à lui que je suis là, entre autres, et toute l'équipe. Il y a quelque chose qui a fait un déclic quand même chez le chercheur là, et je me suis dit, c'est donc vrai. Je ne suis pas dans la question oreilles créoles, pas créoles, ceci, cela, en entendant ces enfants jouer ensemble. Ils vivent dans le même immeuble. Hein. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre qu'il y a donc une connaissance, peut-être, c'est une hypothèse, un savoir qui traverse les générations et qui est inconsciente. Et elle savait très bien dans l'intonation, oui, grand-mère Cal, c'est pas quelle heure il est, grand-mère Cal, dites-nous l'heure et nous, comme ça, on peut s'enfuir. Ou non, grand-mère Cal sait l'heure qu'il est, elle sait. Elle sait exactement l'heure qu'il est. Et c'est quoi l'heure? C'est l'heure du jour et de la nuit. Et bien, c'est ce que les Malgaches appellent, les Français appellent les heures. Et les Malgaches appellent ni tzour ou le jour, c'est-à-dire comment on définit en fonction des astres l'air du temps, quoi, le climat, quoi. Et donc, on va s'adapter en fonction, parce que si les vibrations ne sont pas bonnes, les choses négatives ou néfastes pourraient arriver. Si les vibrations sont bonnes, eh bien, les choses positives pourraient arriver. À Madagascar, nous avons les écrits les plus anciens, les plus anciens connus à Madagascar datent du 14e siècle. C'est du malgache écrit, avec des caractères arabes, par des musulmans migrants de l'Asie et qui sont venus s'installer sur toute la côte est de Madagascar. Ils y sont toujours, ça fait des siècles. Hein. Et eux, ils écrivent. Ils écrivent des archives, et donc dans ces archives-là, politiques, sociales, sociologiques, etc., des chronologies, quoi, la généalogie. Et dans ces archives-là, Ludwig Mund, qui a beaucoup travaillé dessus, qui est un missionnaire scandinave, hein, luthérien, est parti chercher partout dans les bibliothèques européennes où il y a archivé ce type d'écrit. Il a dénombré 7000 pages disponibles que vous pouvez aller lire si vous voulez. Elles ont été toutes collectées pendant la colonisation et toutes, il l'a dit lui-même en résultat de recherche, relativement cachées. Pourquoi? Parce qu'on voulait mettre l'alphabet latin. Et donc, ça nous révèle l'histoire. Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire de grand-mère Cal, c'est qu'à un moment donné, grand-mère Cal, quand elle a perdu sa descendance, qu'elle a réussi à avoir quand même, ou qui est arrivée sans qu'elle l'ait voulu, pas de contraception directe peut-être à l'époque, quoique, on connaissait les tisanes. Hein. Grand-mère Cal, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, chaque fois qu'elle peut, elle s'en va vers le village, elle s'en va vers les familles, et là, la légende, ou le conte, ou le mythe, ou tout ça mélangé nous dit quoi? Nous dit qu'elle vole les enfants. qu'elle les prend et qu'elle l'amène là-bas à côté du volcan et que ça forme une petite communauté, qu'elle les éduque, ça devient ses enfants. Mais les enfants sont éduqués par leurs parents pour dire non, 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 tu ne suis pas grand-mère Cal, tu t'en fiches quand c'est l'heure, hein, quand elle dit l'heure ou quand tu vois l'heure. Enfin, vous comprenez le côté peut-être éventuellement astrologique, divination ou autre qui va avec. C'est dit ou pas totalement dit dans le mythe. Mais toujours est-il qu'on apprend aux enfants, non, toi, tu restes mon enfant, tu ne fais pas comme grand-mère Cal, tu ne vas pas chez elle et surtout, tu ne te réfères pas à grand-mère Cal, c'est même devenu une sorcière d'Halloween. Donc vous avez compris l'affaire, les transformations de génération en génération. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons transmettre sur grand-mère Cal? Je ne sais pas du tout ce que vous transmettez sur grand-mère Cal. Ce que j'ai découvert dans tous ceux à qui j'ai posé la question, c'est ce que je vous raconte là. Et ils nous disent que dans toutes les histoires de grand-mère Cal, on distingue le côté conte, on distingue le côté légende, c'est une héroïne quelque part, négative ou positive, et ses enfants, petits-enfants aussi. Mais c'est aussi donc quelqu'un qui nous dit qui nous sommes. Nous sommes donc des êtres humains parce que nous pouvons avoir une postérité, parce que nous pouvons penser à des ancêtres, que nous les prions ou non, mais nous avons conscience de cette filiation et c'est ce qui fait de nous des êtres humains et pas autre chose. Et c'est ce qui fait que les esclaves ont survécu en tant qu'êtres humains. Et c'est bien pour ça que nous sommes là. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, les contes et légendes à travers grand-mère Cal nous apprennent aussi à comment se sortir de la situation. Grand-mère Cal n'est pas allée se jeter dans la mer. Si, il y a une variante où quand le petit garçon est mort, elle se jette dans la mer aussi. Hein. Mais il y a une variante où justement, elle ne se jette pas dans la mer et elle a cette histoire avec les communautés d'enfants qui fait très peur aux parents. Donc, et qu'on appelle donc pour menacer l'enfant et le socialiser pour qu'il reste en famille, pour qu'il s'ancre dans une filiation, pour qu'il s'ancre dans une éducation familiale, dans une socialisation familiale, à l'abri, protégé, socialisé, tout ce qui s'ensuit, et non pas là-bas, à côté du volcan, auprès du feu, à apprendre, certes, les secrets du feu, mais peut-être pas dans cette socialisation voulue donc par la société Christiane et les familles réunionnaises qui se sont succédées.
Il y a un moment où je vais dire, Christiane, oui, quelle heure il est.
Voilà. Voilà, donc je voulais juste vous faire une conclusion sur l'autre partie des résultats de recherche. Si on peut monter un tout petit peu ou réduire, je ne sais pas. Voilà, toute société, vous aurez compris à travers cet exemple de grand-mère Cal, qu'est-ce que vous aurez compris? Au moins une chose, hein, nous aurons compris au moins une chose, c'est que toute société repose sur un socle mythique. Nous avons tous des mythes. Et même les sociétés qui se disent les plus rationnelles, comme nous le sommes plus ou moins aujourd'hui, hein, mais... Et il est bien prouvé que ces mythes-là sont diversifiés. Je ne vous développe pas du tout, mais c'est pour conclure. Je vous donne juste l'exemple pour finir. Vous savez le petit oiseau là? Le petit oiseau qui se cache devant l'entrée de la caverne, alors qu'un fuyard est dedans, et que c'est que le poursage passe devant en disant « Oh, ben, il y a un petit oiseau, il n'y a sûrement personne dans la caverne. » C'est un mythe universel qu'on raconte sous différentes variantes. C'est même raconté dans certains sites religieux avec une vierge et tout ça dans l'histoire. Hein, vous connaissez tout ça. Ce mythe du petit oiseau et de l'abri, ce mythe du refuge, hein, ce mythe de la caverne, ce mythe du ventre qui fait la postérité, où on peut toujours se réfugier, ça peut être aussi le ventre du grand méchant loup et du petit chaperon rouge. Il faut attendre la mort du méchant loup qui a avalé le petit chaperon rouge pour que le petit chaperon rouge puisse naître aussi à la paternité. Je vous remercie.
Merci Christiane Raffedine-Arrive. Contes, mythes et légendes, ces récits qui donnent du sens.